Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire d'aujourd'hui a pour décor un cinéma de Strasbourg, le Star. En 1995, l'une des caissières, Carole Prin, sur le point d'accoucher, disparaît. Il va falloir 5 ans pour arrêter son assassin. Et c'est le projectionniste du cinéma, Roland Mogg, qui était aussi son amant et le père du bébé. C'était un fan d'Alfred Hitchcock. Cette histoire débute en mai 1995, dans un cinéma de Strasbourg, le Star. Roland Mogg y est projectionniste et sa compagne Carole, Carole Prin, y est caissière. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble et aujourd'hui, Carole est sur le point d'accoucher. À 21h30, Roland est dans sa cabine au cinéma et il reçoit un appel. Ça y est, c'est parti. Carole est en route pour la maternité. Alors il se fait remplacer et il file. Il passe d'abord chez lui pour récupérer le sac que Carole a préparé pour la clinique et il embarque les 2 chiens de Carole qu'il va déposer chez un ami. Salut! Bon, je te confie les clébards, hein. Faut que je file. J'aimerais arriver quand Carole accouche. Allez, file, va. Ne perds pas de temps. Et Roland prend ensuite la direction de la clinique Sainte-Anne, où Carole est suivie depuis le début de sa grossesse. Il arrive dans le hall. Il est un peu essoufflé. La chambre de Carole Prin, s'il vous plaît. C'est quel service, monsieur? C'est la maternité. La maternité. Ah, j'ai pas de Carole Prin, monsieur. Vous êtes sûr que c'est ici? Bien sûr qu'il en est certain. Elle vient de l'appeler. Il monte à l'étage de la maternité. Pas de Carole. Et elle n'est pas non plus en salle de naissance. Elle a disparu. Enceinte jusqu'aux dents. Et sur le point d'accoucher. Roland est mort d'inquiétude. Mais quoi faire? Il ne sait pas. Alors il part à sa recherche dans les rues de Strasbourg, un peu au hasard. Et il tombe sur une patrouille de policiers et il leur raconte son histoire de fou. Écoutez, monsieur, le mieux est de rentrer chez vous. Elle est sûrement là-bas, et si ça n'est pas le cas, vous nous rappelez. Roland arrive chez lui, et là, il panique. À 10 mètres de chez lui, il aperçoit la voiture de Carole, garée. Alors il appelle tout de suite les policiers. J'ai découvert la voiture de ma compagne, dans la rue. Elle n'est pas à la maison. Pourtant, elle est partie, à pas son sac à main.
On arrive, monsieur Mogg. Ne bougez pas.
Les policiers sont là quelques minutes plus tard. Roland les conduit à la voiture. Le capot est froid. Et la voiture est couverte de pollen. Ça fait donc un petit moment qu'elle est là. Au moins 24 heures. Ensuite, Roland emmène les policiers chez lui. Enfin, chez eux. L'appartement est impeccable, rangé, ordonné. Dans la future chambre du bébé, le couffin est là qui attend. Ah tiens. Elle a oublié son carnet de maternité. Dites donc, monsieur Mogg, vous ne vous êtes pas disputé avec votre compagne ces derniers temps? Ah non? Ah non, tout allait bien. Le lendemain, Roland appelle tous les proches de Carole. Sa famille, ses amis. Personne n'a de nouvelles. Personne ne sait où elle est. Au bout de 48 heures, ça devient plus qu'inquiétant et les policiers diffusent un bulletin national. Carole Prin, disparue, enceinte. Et dans la foulée, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement. Et là, l'enquête change de braquet. Les policiers appellent les taxis, les ambulances, toutes les maternités de la région. Aucun accouchement n'a été enregistré sous le nom de Carole Prin. Aucun accouchement sous X non plus d'ailleurs. Son compte en banque n'a pas bougé depuis plusieurs jours. C'est dingue! Une jeune femme qui s'était tant battue pour avoir un enfant, qui avait suivi un traitement et qui disparaît pile au moment où elle doit accoucher. Une fugue, enceinte jusqu'au cou. Ses amis n'y croient pas, et puis elle ne serait pas partie sans ses chiens. Ça, tout le monde le dit. Elle adore ses chiens. Alors les policiers commencent à envisager qu'elle ait été enlevée pour le bébé. Même si d'habitude, les voleurs de bébés ne s'embarrassent pas de la mère. Mais bon, ils vont peut-être se manifester. Ils vont demander une rançon. Du coup, ils placent le téléphone de Roland Mogg, le compagnon, sur écoute. Et ils tentent de reconstituer l'emploi du temps de Carole. De sa disparition, elle appelle son gynécologue dans la matinée. Elle a des contractions. Vous vous rendez compte? Des contractions. Elle est au bord d'accoucher. Le gynécologue lui dit de passer à la clinique. Elle n'y va pas. Et ça, c'est un premier mystère. Pourquoi? D'autant qu'à 15h, on la voit au cinéma Le Star, papoter avec ses collègues, qui racontent qu'après, elle est montée voir Roland dans sa cabine de projection. Ensuite, tous les deux ont passé la soirée ensemble. Le lendemain, dans la matinée, Roland va bricoler chez un ami. Il prend les deux gros chiens de Carole qui passent l'après-midi dans la voiture. Et puis Roland arrive au boulot et Carole l'appelle vers 21h30 pour lui dire qu'elle part pour la maternité. Et elle passe par le standard du cinéma. Les caissières confirment, elles l'ont eue en ligne, elles la connaissent. C'est une collègue. Roland, à ce moment-là, comme tous les papas, prévient alors deux ou trois proches que c'est en marche et qu'il va à la maternité. Et vous connaissez la suite, il arrive à la maternité et Carole n'y est pas. Voilà l'histoire, telle que la raconte essentiellement Roland Mogg. C'est lui qui apporte le plus d'informations, c'est normal. Mais s'il ment, alors c'est une autre histoire.
À Strasbourg, c'est toujours la perplexité chez les enquêteurs qui ne disposent d'aucun indice, d'aucune piste après la disparition il y a 13 jours exactement de Carole, cette jeune femme dont on a perdu la trace, donc alors qu'elle se rendait à la clinique pour accoucher. Enquête à Strasbourg, John Reichenbach.
Cela fait maintenant deux semaines qu'on est sans nouvelles de Carole Prince, cette jeune femme de 38 ans, enceinte de 9 mois et qui a mystérieusement disparu. Le 17 mai, elle téléphone à son concubin et lui dit « Rejoins-moi à la clinique, les contractions ont commencé ». Son ami passe rapidement à l'appartement pour prendre les affaires de Carole, puis se rend à la maternité. Carole ne s'y est jamais présentée. Et depuis 14 jours, on est sans nouvelles de la jeune femme. Une information judiciaire pour enlèvement a été ouverte par le parquet de Strasbourg, mais les appels à témoins et les auditions des proches n'ont toujours rien donné. Les enquêteurs se posent une multitude de questions et qui restent en réponse. S'agit-il d'une fugue, d'un enlèvement, d'un accident, d'un meurtre ou d'un assassinat? Au commissariat central, les policiers envisagent toutes les hypothèses.
Elle est touchante, cette histoire. Vraiment. Carole rêvait de cet enfant depuis des années. Elle croyait qu'elle n'en aurait jamais. Et là, avec Roland, ça marche. C'était inespéré. Et elle a disparu, alors qu'elle avait déclenché ses premières contractions. Alors plus le temps passe, plus on se dit qu'elle a dû accoucher, forcément. Mais où? Où? La belle histoire perd quelques plumes quand Roland dit que de son côté, cet enfant c'était un accident. Autrement dit, il n'en voulait pas. Et puis il y a un truc qui surprend tout le monde chez les enquêteurs. Au cinéma, quasiment personne ne savait que Roland et Carole étaient ensemble. C'est étrange ça, et encore moins qu'elle était enceinte de lui. Ça, personne ne le savait. Personne. Certains collègues connaissaient la liaison, mais le gamin, il n'était pas au courant. Alors ça commence à ressembler de moins en moins à une romance, tout ça. Et puis les amis de Carole se mettent à parler. Il leur fallait un appartement plus grand pour la naissance de l'enfant. Eh ben, il l'a pas cherché. C'est pas lui qui a fait le tour des agences. C'est Carole. Vous voulez dire qu'il n'était pas prêt à emménager avec elle? Et avec le futur bébé? Ben, au final, si. Mais elle a emménagé chez lui. Il voulait pas plus grand. Et le pire, vous savez quoi? Elle a fait le déménagement toute seule. alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Ça l'a pas gêné, l'autre. Et d'autres amis racontent qu'elle se sentait seule. Il n'était jamais là, il était toujours en vadrouille. Elle a même écrit à un ami. « Roland n'est pas toujours présent. Je me pose des questions. » Et le pompon, c'est qu'elle a passé le réveillon de Noël et du Nouvel An toute seule. Roland a dîné chez ses parents et l'idée d'inviter la femme qui partage sa vie ne lui a pas traversé l'esprit. Élégant, hein ? Il est rentré dans la nuit. Allez vous étonner que cet oiseau intéresse de plus en plus la police. Et c'est là, grâce aux écoutes téléphoniques, que les policiers découvrent que Roland a une double vie. Il a une maîtresse qui travaille aussi au Cinéma Star. C'est une collègue. C'est pour ça qu'il a voulu tenir sa relation avec Carole secrète. Il y en avait une autre collègue. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas vraiment envie d'enfant. On comprend comment pour lui, cet enfant, c'était un accident. À un moment donné dans cette enquête, la sœur de Carole, Dominique Prin, qui n'habite pas sur place, vient à Strasbourg. Et naturellement, elle va voir Roland Mogg. Elle a entendu parler de lui, mais c'est la première fois qu'elle le rencontre. Et il lui a donné rendez-vous dans le petit bureau aveugle qu'il occupe au cinéma. Sympa. Et elle le trouve antipathique. Et avec ça, nerveux, stressé et aucun chagrin. Pendant la conversation, il s'interrompt en permanence. Il dit qu'il a une urgence pour le cinéma, alors il va, il vient. La sœur lui parle de l'enquête et lui, il répond d'un ton méprisant. L'enquête ? Du mauvais travail ? Bâclé ? Je leur fais aucune confiance. Aucune. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un ami gendarme. André qu'il s'appelle. C'est un bon. On fait notre petite enquête parallèle tous les deux. Quand elle quitte Roland Mogg, Dominique Prin a, comment dire, la très nette impression que Mogg est pour quelque chose dans la disparition de sa sœur. Et pour dire la vérité, elle pense qu'il l'a tuée. Elle pense que Carole est morte. Elle n'a aucune preuve. Elle le sent, juste. Et elle n'est pas la seule. Les policiers aussi le sentent. Un mois après la disparition de Carole, Roland Mogg est placé en garde à vue. Et là, il répète tout ce qu'il a déjà raconté, sans rien changer. Le coup de fil, son arrivée à la maternité. Et si on compare ce procès-verbal et le récit qu'il a déjà fait dans le cadre de l'enquête, ben c'est la même histoire au mot près, les mêmes détails, les mêmes horaires. On dirait qu'il récite une leçon qu'il a apprise par cœur. C'est très troublant. Quoi qu'il en soit, après 12 heures de garde à vue, les policiers voient qu'ils n'en tireront rien. Alors ils le relâchent. Et à partir de ce moment-là, il a compris qu'il est sur écoute. Alors au téléphone, il règle ses comptes avec la police.
« Ouais, ces salauds, tu vois. Comme ils ont pas de piste, ben ils sont prêts à moi. Ils ont qu'à faire leur boulot mieux que ça. »
Et dans la foulée, il donne une interview au journal Le Figaro. « Je suis le seul témoin, donc le principal suspect. » Alors dans le camp d'en face, celui de la famille de Carole, on sort le grand jeu. La famille est invitée de l'émission « Perdu de vue » de Jacques Pradel sur TF1. Les parents sont sur le plateau. Et Roland Mogg a donné une interview, enregistrée à l'avance, avec pour décor le Cinéma Star. Et comment dire ? La journaliste qui a réalisé l'interview, Patricia Fagg, sort de l'entretien très mal à l'aise, très troublée. Et l'émission passe à l'antenne sur TF1. Grosse audience. Et tout le monde est frappé par la froideur de Roland Mogg dans son interview. Zéro émotion, zéro. À ce moment-là, Jacques Pradel, qui n'est pas un mauvais bougre, veut lui donner une nouvelle chance. Il lui propose un duplex par téléphone. Et l'autre accepte. Dites-moi, Roland, que représentait pour vous cette naissance dans votre vie d'homme et votre rencontre avec Carole ? Carole. Bah, c'est quelqu'un qui comptait pour moi. Enfin, je veux pas parler d'elle au passé, hein, parce que pour moi, c'est toujours quelqu'un de très présent.
Aïe, 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 le vilain lapsus, il a parlé d'elle au passé. Après, il s'est rattrapé, hein, mais il a parlé d'elle au passé. À ce stade, pour incriminer Roland Mogg, les policiers butent un os. Au moment où Carole disparaît, Roland est au cinéma, dans sa cabine de projection, et on a la preuve de ça. C'est le coup de fil à 21h30. Les ouvreuses attestent que Carole appelle Roland via le standard du cinéma et qu'elle le lui passe. Les policiers réentendent les ouvreuses et là, 6 mois plus tard, elles sont beaucoup moins affirmatives. Mademoiselle, j'ai votre déposition de juin sous les yeux. Vous y affirmez bien que vous avez eu Carole Prin au téléphone et que c'est vous-même qui avez transmis l'appel à Roland Mogg.
Oui, mais depuis... Je sais plus. Je sais plus si c'est moi qui ai décroché ou pas. J'ai oublié.
Et là, ça change tout. Si ça se trouve, ça n'est pas Carole qui appelle. Et Roland n'est peut-être pas dans sa cabine. Roland n'a donc plus forcément d'alibi. En attendant, ce Roland Mogg, qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Il a un frère jumeau, Danny, avec lequel il entretient une relation assez fusionnelle. Même s'ils n'ont pas exactement le même parcours, Danny a fait de grandes études, Roland a juste un CAP de projectionniste. Cela dit, Roland touche sa bille en électronique, hein, ça c'est certain. Et d'ailleurs, c'est lui qui a supervisé les derniers travaux du star. C'est même lui qui a construit certaines salles de projection. Il connaît le cinéma comme sa poche, de la cave au grenier. Cela dit, il a eu des soucis avec son patron récemment. Des pannes à répétition dans les salles de projection et aussi quelques trous dans la caisse. Il a pris 3 avertissements. Côté personnel, les policiers apprennent une ou deux choses troublantes. Il a déjà 2 enfants, 5 et 9 ans. Il ne les a pas reconnus et il a quitté la mère après la naissance du deuxième. Roland Mogg, c'est quelqu'un qui compartimente. C'est quelqu'un qui cloisonne sa vie. On sait qu'il avait 2 maîtresses, Carole et une autre. Eh bien, il a fait pareil avec ses amis. Il a des amis, mais ils ne se connaissent pas. C'est étrange comme mode de fonctionnement. Les policiers décident de le placer une nouvelle fois en garde à vue. Sans plus de succès. Il resserre toujours la même version, avec les mêmes détails, et il ressort libre. Mais à partir de ce moment-là, le cadre de l'enquête change. Jusqu'ici, on enquêtait pour un enlèvement. Désormais, la juge enquête sur un meurtre. Et elle confie la suite de l'enquête aux gendarmes. Et les gendarmes font quelque chose que les policiers n'avaient pas fait jusqu'ici. Ils perquisitionnent le cinéma Star. Ils démontent tout, les coffrages, les faux plafonds, ils vont même jusqu'à démonter un escalier. Et dans la cave, sur un mur, ils relèvent des impacts de balles. A priori, c'est du .357 Magnum. Et ils apprennent que Roland Mogg est inscrit dans un stand de tir. Mais il dit qu'il n'a jamais tiré dans la cave du cinéma. Et là, ils mettent sa cabine de projection sur écoute. Et ils l'entendent parler avec son ami André. Vous savez, André Lambert, le gendarme à la retraite, le fameux gendarme qui l'aide dans son enquête parallèle. Et ils s'aperçoivent que l'autre le tient au parfum de toutes les techniques d'enquête de ses collègues. Les méthodes, le matériel. On sent bien que le vieux Pandore ne pense pas à mal. Dans son esprit, il aide juste un ami innocent à éviter les pièges. Mais il n'y a pas que ça. Quand les gendarmes interrogent un ami de Roland Mogg, dans la foulée, l'ami appelle Roland pour lui faire un compte-rendu. Et ils ont tous l'air prêts à modifier leur déclaration, si on le leur demande. Manifestement, Roland est quelqu'un qui a de l'emprise sur les gens qu'il fréquente. C'est ce qu'on appelle un manipulateur. Trois ans et demi après la disparition de Carole, Roland Mogg est placé pour la troisième fois en garde à vue. Et là, les gendarmes n'y vont pas par quatre chemins. Vous savez où est le corps de Carole Prin ? Vous pouvez nous y conduire, monsieur Mogg ? Mais non ! Je ne sais pas où il est. Je ne suis pas au courant. À l'issue de cette garde à vue, il est mis en examen pour meurtre. Et il est écroué. Entre nous, la juge est allée un peu vite dans cette mise en examen. Avec un bon avocat, l'autre ne va pas tarder à ressortir. Il n'y a pas de preuves dans le dossier. Il y a juste des suspicions. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Depuis sa prison, Roland demande à son frère Danny et à son copain le gendarme André Lambert un petit service.
Hé les mecs, j'ai mis des affaires dans la cave d'un copain. Ce sont toutes des affaires du bébé. Il y a son lit, il y a des cartons de jouets, il y a aussi une malle avec des effets personnels de Carole et des livres. Alors plutôt que ça encombre, vous voulez pas me mettre tout ça à la décharge ? J'en aurai plus besoin maintenant.
Et les deux autres obéissent. Et ils vont à la cave du copain en question. Et ils récupèrent la malle, le lit, la caisse à jouer. Ils mettent tout dans le coffre de leur voiture. Et ils vont à la déchetterie de Wolfisheim. Et quand ils arrivent, zut ! La déchetterie est fermée. C'est la pause déjeuner. Alors ils se garent, un peu à l'écart, pour patienter. Et dans une sorte de réflexe professionnel, André, l'ancien gendarme, se met à inspecter le contenu du coffre. Et notamment cette malle, qui est fermée par un cadenas. Elle est censée contenir surtout des livres, et elle est bizarrement légère. Il fait sauter le cadenas. Il n'y a pas de livres à l'intérieur. Il y a juste des sacs poubelles fermés par du scotch. Il en ouvre un, et il sent une odeur de mort. Et il plonge la main dans le sac, et il en ressort un os. Et comme il ne veut pas y croire, il dit « Bah ça alors ? Je viens de trouver un os de lapin !» Mais il s'aperçoit vite que le lapin a des cheveux. André et Danny se regardent stupéfaits. Et maintenant paniqués. Dans le sac, il y a le squelette de Carole et celui de son bébé. Et là, ils ont une drôle de réaction. Ils vident le contenu de la malle dans le fossé et ils vont passer le reste de la journée à picoler, à se saouler la gueule pour ne pas avoir à imaginer les conséquences de leur découverte. Après quoi, André rentre chez lui en Savoie. Et là, il se reconnecte avec la gravité de sa découverte. Et il appelle Danny. Danny, faut faire quelque chose. On peut pas laisser la situation comme ça.
Je voulais t'appeler, justement. J'arrive plus à dormir, André.
Danny, je vais te donner le nom de la juge d'instruction. C'est ton frère. C'est à toi de l'avertir.
Ok. Ok, je vais faire ça.
Et Danny, le frère jumeau de Roland, va voir la juge et lui raconte tout. Et il emmène ensuite les gendarmes à l'endroit où ils ont balancé les sacs. Et l'autopsie révèle d'abord que c'est bien le corps de Carole Prin, qu'elle a été tuée par balle. On fait aussi une autopsie du corps du bébé, mais 4 ans plus tard, impossible de dire s'il a été tué avant ou après sa naissance. Et la juge fait savoir à Roland Mogg que la donne a changé. Elle n'avait pas de preuves. Maintenant, elle a la preuve suprême. Elle a les cadavres. Et elle le réinterroge, bien sûr. Et il est obligé de raconter une autre histoire. Oui, il a bien tiré sur Carole Prin. Ça s'est passé dans la cave du cinéma. Mais c'était un accident. C'était dans la cave. J'ai voulu lui montrer une armoire qu'on voulait prendre pour la chambre du petit. Et puis il y avait mon revolver qui était caché sur le haut de l'armoire. Et le coup est parti tout seul. Alors j'ai paniqué. J'ai décidé de cacher son corps. Ouais. Il dit qu'après, vers minuit, il a pris la voiture de Carole, il est redescendu dans la cave et il a mis son corps dans les sacs poubelles qu'il a fermés hermétiquement avec du ruban adhésif. Et il a déplacé le corps jusqu'au rez-de-chaussée du cinéma, où il l'a planqué dans un trou, sous les poubelles, et le corps serait resté là, 2 ans, à mariner sous les poubelles, avec de temps en temps des boules désodorisantes. Et puis, il a senti qu'on finirait par fouiller le cinéma, alors il l'a mis dans la malle. Voilà. C'était un accident. Un mois et demi plus tard, a lieu une reconstitution sur place, au au cinéma, au cours de laquelle on fait un test. Est-ce que si on tire dans la cave, on entend le coup de feu, notamment dans les salles de cinéma? Eh bien oui, et un peu qu'on les entend. Et ça restera un mystère. Comment se fait-il qu'aucun spectateur à l'époque n'ait entendu le ou les coups de feu? Quant à l'arme, il dit qu'il l'a jetée dans un lac, mais on fouille le lac et on ne la trouve pas. Les avocats de Mogg lui conseillent de dire où il l'a planquée. Et il le dit, finalement. C'est important parce que tout l'enjeu est de vérifier si la détente du 357 Magnum est suffisamment légère pour que le coup soit parti tout seul. Un balisticien travaille sur le sujet. Et ça n'est pas le cas. Le 357 Magnum a une détente tout à fait normale. Il faut vraiment appuyer sur la gâchette pour que le coup parte. Il y a un autre détail qui indique que Roland Mogg n'a pas tout dit. Dans les sacs où étaient les corps, on a retrouvé des débris végétaux, un cône d'épicéa et une branche de sorbier. Alors peut-être qu'il n'a pas tout dit sur le destin de ce corps pendant toutes ces années. En septembre 2000, la juge interroge à nouveau Roland Mogg et elle lui met sous le nez toutes ses incohérences. Le 357 Magnum notamment, qui ne peut pas tirer tout seul. Et cette fois, Mogg est bien obligé de reconnaître que c'est lui qui a tiré. Que ça n'était pas un accident, que c'était un meurtre. Mais il dit que c'était un meurtre passionnel. Il l'a tué parce qu'elle voulait le quitter. Roland Mogg comparaît devant la cour d'assises de Strasbourg le 27 novembre 2001. Son frère Danny vient à la barre.
Roland n'est pas un monstre. Il a dérapé ce jour-là. C'est tout.
Mais dans son box, l'autre est toujours aussi froid, aussi distant, sans affect. Après 9 jours d'audience, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 15 ans. L'avocat général avait réclamé 30 ans. En prison, désormais, il travaille à la restauration de films anciens pour l'Institut national de l'audiovisuel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.